au 1047 Outaouais.
Vous écoutez l'Outaouais maintenant.
L'Outaouais maintenant. Avec Michel Lapointe.
Une infirmière auxiliaire qui ne faisait pas confiance au patron du CHSLD Aaron a décidé de documenter ses quarts de travail pendant le pic de la première vague de COVID-19 lorsque 47 personnes sont mortes en quelques jours. Annie Guillemette a assisté à l'enquête publique aujourd'hui. Bonjour Annie.
Bonjour Michel.
Écoute, un témoignage sidérant aujourd'hui.
Effectivement, parce qu'on sent que cette infirmière auxiliaire-là, qui sera bientôt d'ailleurs infirmière diplômée, a pris ça à cœur. Lorsqu'on a annoncé le premier cas de COVID au CHSLD Aaron, on était en mars 2020 à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont quitté, beaucoup d'employés qui ont décidé de rentrer à la maison parce qu'ils avaient peur de la COVID. Avec raison, on pourrait ajouter. Elle a décidé de rester et ils étaient environ 12 pour soigner pendant le jour, le soir et la nuit à peu près 140 résidents à Aaron. Donc, on comprend que ça relevait du grand défi, pour pas dire que c'était impossible. Donc, elle, comme ses collègues, ont enchaîné des journées de 12, de 18 heures. Et elle est ressortie de là, je dirais, en bon québécois, assez poquée. Elle souffre d'un syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique, syndrome qu'on connaît, là, entre autres, pour les soldats qui sont allés au front. Elle dit qu'elle est encore en thérapie. Pour elle, c'est un événement qui a carrément changé sa vie à jamais. On va écouter justement un extrait de l'entrevue qu'elle m'a accordé en exclusivité tout de suite après son témoignage ce matin.
C'est dans mon cœur, toujours. Je peux vous dire chaque chambre, chaque nom. Je peux vous rencontrer des histoires de chaque résident. Quand j'ai rentré pour travailler, j'ai traité les gens comme ils étaient mes grands-mères, mes grands-pères.
Et cette infirmière-là, auxiliaire, Michel, a dû se battre pour traiter ses patients qu'elle aimait tant parce qu'il y avait tellement pas de monde, tellement pas d'équipement qu'on ne pouvait pas trop les laver, qu'on n'avait pas trop le temps de les nourrir. Elle a dit, écoutez, je laissais les préposés tenter de les nourrir, tenter de les laver. Moi, je me concentrais sur leur hydratation. On sait qu'il y en a qui sont décédés probablement de faim et de soif. Je me concentrais sur leur hydratation et sur leur médication, mais surtout, elle aidait les mourants à avoir une fin de vie digne. Elle a dit, écoutez, je me suis battue avec des collègues, je me suis engueulée avec des collègues qui voulaient se concentrer sur les personnes en bonne santé, alors que moi, je voulais donner des soins palliatifs dignes de ce nom aux gens qui étaient en fin de vie. Elle s'est même aussi battue, elle a raconté ça aujourd'hui à la coroner, Mme Kamel, pour laver des gens qui étaient décédés, qui étaient laissés dans leur urine, laissés dans leur vomi et qui méritaient une fin digne avant de partir au salon funéraire, avant que leur famille les voie aussi. Et elle a raconté une histoire vraiment crève-cœur, l'histoire d'un monsieur qui souffre d'Alzheimer, qui est dans la même chambre que son épouse. Son épouse décède de l'Alzheimer et pauvre monsieur, à chaque fois qu'il se levait pour aller voir sa femme, il constatait qu'elle était morte, donc il pleurait et il retournait dans son lit. Quelques instants plus tard, il avait oublié tout ça, il retournait voir sa femme, constatait à nouveau qu'elle était décédée. Donc cet homme-là a appris le décès de son épouse plusieurs fois avant que finalement on enlève son corps de la chambre. Donc c'est pas une histoire inventée, il y a des gens qui ont vécu ça. Et l'infirmière auxiliaire était vraiment submergée par les émotions à plusieurs reprises. La coroner l'a bien réconfortée, l'a assurée de son soutien. Tout ça, bref, ça s'est bien déroulé, son témoignage. Mais elle a eu des critiques très vives à propos de la prise en charge du CIUS. Parce qu'on disait souvent dans les nouvelles à ce moment-là, Michel, ben, le CIUS va prendre en charge le CHSLD Aaron. Les patrons qui étaient là avaient peut-être plus une propension à faire de bonnes sommes d'argent qu'à soigner les gens. Donc, on va les tasser de là, comme on dit, et le CIUS va prendre la place, ça va bien aller, on est en charge, on s'occupe de tout. Elle a dit, dans les fêtes, ça a pris des semaines avant que les soins soient adéquats, même après l'arrivée du CIUS. Il y a une question qui résume tout, Michel, là. L'avocat, justement, des anciens propriétaires lui a demandé « Si je vous nomme telle personne, c'était la responsable qui avait été envoyée par le CIUS, qu'est-ce que vous avez fait avec elle? Comment elle vous a accueilli? Comment vous êtes? Elle a dit, écoutez, ce nom-là, monsieur, c'est la première fois que je l'entends de ma vie. Pour vous dire comment c'était chaotique.
C'était épouvantable.
Quand on a tenté de sauver la situation là-bas.
Moi, je t'écoutais, puis j'entends, là, c'est les gens décédés de longues heures dans leur lit, on les laisse là.
Mm-hmm.
En 2020, 2021, dans les années 2000, mais c'est épouvantable. La coroner, Annie, est-ce qu'elle restait quand même pas trop émotive? Parce que tu me racontais cette histoire-là, puis j'en avais comme des frissons un peu, là. J'étais pas bien, là.
Mm-hmm. Oui, bien, il y a beaucoup de monde qui avait des frissons lorsqu'on s'est fait raconter la même histoire, Michel. La coroner aussi, elle dit souvent la blague qu'elle est zen, qu'elle est calme, mais oui, on le sent qu'elle est touchée par ce qui se déroule devant elle, par les histoires. Il y a des gens derrière chaque histoire qui sont racontées pendant cette enquête-là. Et pour elle, c'est très, très important. Et elle répète très, très souvent, Mme Kamel, qu'elle est là pour donner une voix à ceux qui n'en ont plus. L'infirmière auxiliaire qui a témoigné aujourd'hui avait pris en note les détails de ses quarts de travail pour la même raison. Donc, on verra dans son rapport comment ça va transpirer, tout ça. Mais on sent vraiment de la part de la coroner et de son équipe qu'on veut vraiment que ce genre de situation-là n'existe plus au Québec de nos jours.
Bien, je le souhaite. Et juste, peut-être pour ceux qui se posent la question, quelle est la raison pour laquelle on dévoile pas l'identité de cette infirmière, Annie?
En fait, c'est vraiment une question de droit, là.
Oui.
Tout le personnel qui est syndiqué, les syndicats ont obtenu, je ne sais pas si c'est d'usage, là, mm-hmm. mais dans la majorité des enquêtes publiques du coroner que j'ai couvertes, les gens qui étaient là de par leur emploi, qui ne sont pas des témoins civils, entre guillemets, on doit préserver leur identité, et c'est le cas de l'infirmière d'aujourd'hui. Par contre, les cadres, les gens qui ne sont pas syndiqués ou les témoins qui sont là de leur propre chef, eux, habituellement, on peut les identifier, là, à moins qu'ils ne soient mineurs ou qu'il y ait une autre ordonnance à ce propos-là.
OK. Donc, tout ça se poursuit demain. D'autres témoins, j'imagine?
Ah oui. On en a encore pour cette semaine et la semaine prochaine. Là, c'est l'enquête du coroner qui est la plus longue là, dans les 7 ou 8 enquêtes du coroner sur les décès dans les CHSLD. Il y a eu 47 morts à Aaron, qui sont couverts par l'enquête qui se déroule présentement.
D'accord. Un gros merci, Annie Guillemette.
Au revoir.
Merci. Bonne fin d'après-midi. Annie Guillemette, journaliste à Cogeco Nouvelles.